Chapitre 78. Il se présente deux ou trois fois dans la vie d'un homme comme César, de ses points de fortune ou de malheur, où la fortune ou le malheur ne pouvant pas aller plus loin, une réaction s'opère en mal si la situation est bonne, en bien si la situation est mauvaise. La position de César était en ce moment si mauvaise qu'elle ne pouvait devenir pire. L'amélioration devait nécessairement arriver. Les premières traces de retour que lui donna la fortune furent la désertion des Gétules et des Numides qui se trouvaient dans le camp de Scipion. Ces barbares firent ce que n'eussent probablement pas fait des hommes civilisés. Ils se souvinrent qu'ils avaient des obligations à Marius et que César était son neveu. Il en résulta que, peu à peu, Gétules et Numides commencèrent à déserter du camp de Scipion et passèrent dans celui de César. Mais César, qui n'avait pas de quoi nourrir les déserteurs, les renvoya chacun chez eux avec des lettres pour les principaux des villes, lettres dans lesquelles il exhortait ceux-ci à prendre les armes, à reconquérir leur liberté et surtout à ne plus envoyer de secours à ses ennemis. De notre côté arrivaient les députés de certaines villes de l'intérieur qui venaient offrir leur obéissance à César, lui demandant des garnisons pour se défendre et promettant de lui envoyer du blé. Mais César n'avait pas assez de troupes pour dégarnir son camp, et Scipion en gardait si bien les approches qu'il eut certes enlevé tous les convois qui fussent venus par terre. Pendant ce temps, Salluste, de même qu'à Rome on était avocat et général, on pouvait aussi, vous le voyez, y être général et historien. Pendant ce temps, Salluste avait débarqué dans l'île de Cercine, la Kernéchie moderne. Il en avait chassé Caius Decius, qui y gardait des convois pour les Pompéiens, et, ayant été bien reçu des insulaires, il y chargea quantité de blé sur des vaisseaux marchands qu'il trouva dans le port, et qu'à l'instant même, il achemina vers le camp. Sur ces entrefaites, comme si la fortune voulait payer ses aréages, le préteur Alienus fit partir de Lilibée la 13e et la 14e légion, avec 800 chevaux gaulois et 1000 frondeurs ou archers, qui arrivèrent tous à bon port à Ruspine, 4 jours après leur départ. Ce fut une grande joie pour César, qui les attendait si impatiemment, de voir apparaître ses voiles. Il présida au débarquement, et dès que les hommes furent remis de la fatigue de la mer, il les distribua dans les forts et dans les retranchements. Cette rentrée de vivres et ce renfort de soldats répandirent la joie dans le camp de César. Mais dans celui de Scipion, l'étonnement était grand. On connaissait le caractère entreprenant de César et l'on se disait qu'il fallait qu'il fût bien faible pour se tenir ainsi renfermé dans son camp. Scipion résolut d'envoyer 2 espions qui, sous le prétexte qu'ils se feraient césariens, resteraient pendant 2 jours au camp de César. Puis, repassant au camp de Scipion, feraient un rapport exact de ce qu'ils auraient vu. Le choix du général pompéien tomba sur 2 Gétules auxquels il fit de grandes promesses et qui partirent pour le camp de César comme transfuges. Mais à peine se furent-ils présentés et eurent-ils été reçus sous ce titre qu'ils demandèrent à être conduits à César et qu'alors ils lui dirent la cause de leur venue à son camp, lui racontant que Scipion les avait envoyés pour s'assurer s'il y avait ou n'y avait point quelque piège tendu aux portes ou ailleurs contre les éléphants. Ils ajoutèrent que presque tous leurs compatriotes, en souvenir des bienfaits de Marius et une partie des soldats de la 4e et de la 6e légion, mouraient d'envie de passer de son côté, mais ne pouvaient tromper la garde posée par Scipion aux portes du camp. César les reçut à merveille, leur fit des cadeaux et les envoya au quartier des transfuges. Dès le lendemain, leur rapport fut confirmé par l'arrivée d'une 12aine de soldats de la 4e et de la 6e légion. 2 jours après, ce furent les habitants de Tisdra qui envoyèrent dire à César que plusieurs laboureurs et marchands italiens avaient mis jusqu'à 300 000 boisseaux de blé dans leur ville. Les messagers venaient demander une garnison pour les garder. On reçut aussi un courrier de Sitius annonçant qu'il était entré en Numidie, y avait pris un fort situé sur une montagne et où Juba avait enfermé toutes ses munitions. Et ainsi la fortune, capricieuse un instant, mais fidèle au fond, préludait à son retour vers César. Aussi se préparait-il au combat. Renforcé de 2 vieilles légions, sans compter la cavalerie et les gens de trait, il ne se jugea point encore assez fort. il envoya 6 vaisseaux de charge chercher à Lilibé le reste de ses hommes. Ils arrivèrent à bon port. Le soir même de leur débarquement, qui était le 25e jour de janvier, César décampa vers minuit, sans avoir seulement prévenu les officiers qu'en leur ordonnant de se tenir prêts dès la première veille. D'abord, il tira vers Ruspine, où il avait laissé garnison, puis de là, prenant à gauche le long du rivage, il entra dans une plaine de 4 lieues à peu près, bordée d'une longue chaîne de montagnes en forme d'amphithéâtre, et à l'extrémité de laquelle était le camp de Scipion. C'était une suite de collines, sur le sommet le plus élevé desquels on avait autrefois bâti des tours pour découvrir le pays. César s'empara successivement de tous les sommets et, en moins d'une demi-heure, il y eut sur chacun d'eux une tour garnie de ses soldats. Parvenu près de la dernière, il s'arrêta. Elle était gardée par une troupe de Numides. César n'alla pas plus loin. Il fit tirer un retranchement depuis le lieu où il était arrivé jusqu'à l'endroit d'où il était parti. Au point du jour, ce retranchement était presque terminé. À la vue de César, Scipion et Labienus firent sortir toute leur cavalerie, la rangèrent en bataille, la firent avancer de quelques 1000 pas, puis placèrent leur infanterie en seconde ligne, à 400 pas à peu près du camp. César ne continua pas moins de tirer son retranchement. Mais voyant que l'ennemi s'approchait pour inquiéter ses travailleurs, il détacha un escadron de cavalerie espagnole qu'il fit soutenir par un bataillon d'infanterie légère, leur commandant de s'emparer de la colline où était le poste des Numides. Cavalerie et infanterie, qui depuis longtemps avaient soif de combattre, donnèrent avec tant d'ardeur qu'elles entrèrent dès la première charge dans les retranchements, d'où on ne put les faire sortir. Elles en demeurèrent donc maîtresses après avoir tué et blessé une partie de ceux qui les défendaient. Alors Labienus, voulant réparer cet échec, prit à la réserve 2 milliers d'hommes, toute son aile droite, et s'avança à leur secours. Mais César, le voyant s'éloigner imprudemment du fort de la bataille, détacha toute son aile gauche pour le couper, masquant son mouvement à l'aide d'une immense forteresse flanquée de 4 tours, qui empêchait Labienus de voir ce qui se passait. De sorte que celui-ci ne s'aperçut de la manœuvre que lorsqu'il eut sur les bras les hommes de César. À la vue des Romains, les Numides prirent la fuite, laissant à la boucherie les Germains et les Gaulois, qui furent tous taillés en pièces après s'être défendus comme se défendaient les Germains et les Gaulois. En même temps, l'infanterie de Scipion, qui était en bataille devant son camp, voyant ce désordre, lâcha pied et rentra par toutes les portes. De son côté, César, ayant délogé l'ennemi de la plaine et de la montagne, fit sonner la retraite et rentrer sa cavalerie. Si bien qu'il ne resta plus sur le champ de bataille que les corps nus et blancs des Gaulois et des Germains, déjà dépouillés de leurs armes et de leurs vêtements.